Le trafic bouge. On parle, mais quand est-ce qu'on pense? Présenté et écrit par Ludovic Morino, Clémentine Guillou et Charlie Hudave pour le lycée des Arènes. J'étais peinard dans ma chambre avec un pote, Fabien, et Elsa, ma copine.
On était mieux sans eux. Il y en a partout dans le quartier. On se fait remplacer, je te jure. Les Arabes, c'est pas pute. Ils viennent voler notre travail.
Mais nique-toi, espèce de facho, t'es juste pas ouvert aux autres.
Bon. J'entends plus que ça. L'immigration, c'est un sujet d'actualité permanent. Les vagues migratoires vers l'Europe suscitent les réactions des politiques.
Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières.
Qui ne cesse de prévenir contre ces dangers.
Il faut arrêter l'immigration. Il faut s'attaquer au communautarisme.
Alors, écoutez, oui, il y a un affrontement de civilisations. On n'a pas la même vision de la France.
Ou ses chances.
Mais ça ne me surprend pas, les immigrés ont toute leur place dans notre pays.
Bien évidemment, et je rappelle que la liberté de circulation est protégée par la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Les réactions des journalistes, qui eux, ne cessent de relater les témoignages poignants des victimes de l'immigration. Les Européens ?
Ce que j'aimerais quand même relever, c'est que la véritable violence, c'est celle des terroristes islamistes qui s'infiltrent via la voie de l'immigration massive, qui viennent décapiter un Samuel Paty, qui viennent égorger dans la cathédrale de Nice.
Les immigrés eux-mêmes.
Quand on est en Côte d'Ivoire précisément, on nous raconte trop d'histoires. On nous disait que non, que l'Italie c'est l'Eldorado. C'est quand tu rentres net, tu as du boulot, tu as du papier. Mais aujourd'hui, je constate que c'est le contraire. On est là, franchement, on souffre.
C'est sûr, ça prend de la place dans les médias. Un jour, ma copine est rentrée, elle avait l'air bouleversée.
Je te jure, c'est horrible. Comment on peut vivre comme ça? Les laisser attendre, c'est nier leurs droits humains. Il y en a marre des frontières, il y en a marre de l'étatisme.
Elle me jette un article du Monde. 10 octobre 2018, au bord de l'Aquarius. Nous vivons libres ensemble ou nous mourrons ensemble. Rédigé par Julia Pascal et Samuel Gratacap. Je crois que ça témoigne du sauvetage de rescapés.
Une embarcation en détresse avec 11 personnes à bord au large de la Libye, le 20 septembre. Samuel Gratacap pour Le Monde. Khaled, jeune Libyen de 30 ans, a vendu sa voiture et s'est fait prêter de l'argent par un ami pour réunir le millier de dollars nécessaire à sa traversée. Afef, mère célibataire de 4 fils, a payé pour elle et ses deux cadets de 13 et 14 ans. Mais elle n'a pas eu assez d'argent pour que ses deux aînés de 20 et 21 ans la suivent. Père de 4 enfants âgés de 3 à 7 ans, Fouad avait déjà misé 20 000 dollars sur l'obtention de visa pour sa famille. En vain. Il a donc pris la mer. Nous vivrons libres ensemble, ou nous mourrons ensemble, s'était-il promis avec sa femme. Parmi les 47 personnes secourues à bord de la barque en bois, dans la nuit du 23 septembre, par l'Aquarius, il y avait deux vendeurs de voitures, un ingénieur son, une infirmière, un comptable, une femme enceinte et 17 enfants. Des familles libyennes en majorité, des gens bien établis avaient remarqué la responsable de l'équipe MSF à bord de l'Aquarius. Sur l'écran radar du navire humanitaire, Nick Romanuk, responsable des opérations de recherche et de sauvetage pour SOS Méditerranée, n'a d'abord vu qu'une trace. Comme on cherche une aiguille dans une botte de foin, il espérait trouver depuis plusieurs heures cette embarcation en détresse dont la présence en mer lui avait été signalée par la plateforme téléphonique associative AlarmPhone. Lorsque les deux canaux de sauvetage de l'Aquarius ont été mis à l'eau et se sont rapprochés, il faisait encore nuit. À mesure que le jour se levait, les sauveteurs sont parvenus à distinguer les traits derrière les pupilles rondes des membres de l'équipage singulier qu'ils venaient de secourir, surpris dans les eaux internationales, sans balise de détresse et sans radio.
Ces témoignages des migrants ou de leurs sauveteurs suscitent beaucoup d'empathie. Je le vois chez Elsa. Je le vois chez Fabien. J'ai rien dit. En tout cas, certains artistes s'inspirent de ces expériences qu'ils traitent comme des épopées. Cet après-midi, je suis en cours de physique. Je crois que ça n'intéresse pas trop Elsa.
Psst, j'ai pris ça à la bibliothèque. Lis-le, s'il te plaît.
Elle me glisse Eldorado sur ma table en recouvrant mes équations. Eldorado. C'est sorti en 2006. Ça parle de migrants qui veulent trouver la cité d'or en Europe, je crois. Ah, il y a un commandant de bateau de sauvetage qui les récupère en mer et les renvoie chez eux. Ce n'est que lorsque les lumières de Catane disparurent à l'horizon qu'ils eurent véritablement l'impression de s'enfoncer dans la poix. Le ciel et la mer étaient du même noir et on distinguait à peine quelques traînées d'écume que la lune, çà et là, éclairait entre deux nuages. Il pleuvait de plus en plus dru. Ils eurent le sentiment de plonger dans un corps vivant. Tout bruissait autour d'eux. tout tangué, craché et soufflé. Il sentait qu'il n'était pas de taille, que les hommes n'étaient pas à l'échelle de cette masse puissante qui se cabrait et roulait, qui grondait et se gonflait, jouant avec le vent et la pluie. Ils n'étaient rien que des êtres de chair minuscules face à un continent d'eau qui avait entrepris ce soir de se tordre en tous sens. Le second avait dit juste, la mer était sauvage. Elle n'était pas en furie, elle ne cherchait pas à engloutir à tout prix les hommes, elle vivait simplement, sans en tenir compte. C'est ce qui leur donna à tous la sensation qu'il valait mieux ne pas trop se faire remarquer, faire le moins de bruit possible, ne pas heurter frontalement. Il était préférable qu'elles continuent à ignorer leur présence. Pour se rassurer et rester concentrés, les hommes gardaient les yeux fixés sur les lumières du bateau, les feux de position, l'écran radar. Tous, sauf le commandant. Lui ne pouvait pas quitter des yeux la masse énorme qui roulait à l'infini. On dirait le corps d'un cétacé, pensait-il. Une baleine immense qui se secourait et ondulerait indéfiniment. Sans pensée, sans volonté, par une sorte de nervosité soudaine et insondable. La nuit grondait. La mer semblait vouloir manger les étoiles et il trouvait cela rassurant. Lorsqu'ils furent à quelques milles de la zone qui leur avait été signalée, tout à coup, les oscillations marines cessèrent. « La chance est avec nous », pensa le commandant. Le ciel s'éclairait. Il fut à nouveau possible de distinguer une ligne d'horizon. La lune s'était libérée des nuages et faisait briller le dos froissé des flots. C'était comme une sorte de soulagement au cœur d'un tumulte sourd. La frégate fila dans un silence paisible. Les hommes, maintenant, observaient la mer à la recherche d'une lumière ou d'un son. Ils étaient habitués à se mettre à l'écoute du moindre murmure de l'eau et à en déceler les plus infimes étrangetés. La recherche avait commencé comme à chaque fois. Salvatore Piracci se dit à lui-même « Quel étrange métier nous faisons. Nous voilà à la recherche de 5 barques dans l'immensité, et pourquoi ?» Au fond, ces histoires d'émigration et de frontières n'étaient rien. Ce n'était pas cela qui lui faisait quitter le port pour aller piocher dans la nuit la plus noire. À cet instant précis, il n'y avait plus de bâtiments de la marine militaire et de missions d'interception. Il n'y avait plus d'Italie ou de Libye. Il y avait un bateau qui en cherchait un autre. Des hommes partaient sauver d'autres hommes par une sorte de fraternité sourde. Parce qu'on ne laisse pas la mer manger les bateaux. On ne laisse pas les vagues se refermer sur des vies sans tenter de les retrouver. Bien sûr, les lois reviendraient et Salvatore Piracci serait le premier à réendosser son uniforme. Mais à cet instant précis, il cherchait dans la nuit ses barques pour les soustraire aux mâchoires de la nature et rien d'autre ne comptait. Alors, il murmura à son second. « Cela, nom de Dieu, on va les retrouver. » Et le jeune homme tressaillit de la volonté qui émanait de sa voix. C'est vrai, c'est poignant. Ça te prend par les tripes et ça te lâche pas.
C'est pas moral.
Ouais, c'est vrai que ça fait prendre du recul de s'identifier à eux. Mais est-ce que ça suffit ? Je veux dire, on parle de les accueillir parce qu'ils souffrent, ou de pas les accueillir parce qu'ils seraient violents. Mais pourquoi ils bougent à la base ? En fait, Fabien et Elsa, ils s'intéressent pas à la politique, je crois. Pourquoi ils bougent à la base ? C'est quoi les causes ? Non mais il y en a des causes, il y a forcément des causes.
Mediapart. Phénomène migratoire actuel, causes et conséquences. Ça parle d'ingérence, de passé colonialiste, d'intervention en Libye en 2011. Putain, ce bazar qu'ils ont créé sous prétexte de valeur, liberté ou libéralité ? Denis McShane ayant participé au vote à l'ONU en faveur de l'intervention militaire britannique en Irak en 2003 aux côtés des forces américaines, a reconnu sur les ondes son erreur et les lourdes conséquences de ce vote. Putain, tu m'étonnes. Indépendance de l'Afrique et du Moyen-Orient ou transfert colonial ? On va pas me dire que les États-Unis n'ont pas bénéficié économiquement de leur interventionnisme, même avec ses conséquences dévastatrices en termes de terrorisme. Monde Diplo, 2016, quand les djihadistes étaient nos ennemis.
Pendant une période comprise entre la défaite cinglante des États-Unis en Indochine et les craquements en chaîne dans les pays européens satellites de l'Union soviétique, notamment en Pologne, où l'état d'urgence est proclamé en décembre 1981, les États-Unis et l'Europe occidentale imaginent ou font croire que Moscou a lancé une grande offensive mondiale. En Afrique, l'Angola et le Mozambique, nouvellement indépendants, semblent lui tendre les bras. en Amérique centrale, des guérillos marxistes font tomber une dictature pro-américaine au Nicaragua. En Europe occidentale, un parti communiste pro-soviétique oriente pendant quelques mois la politique du Portugal, membre fondateur de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. L'invasion de l'Afghanistan par l'Armée rouge en décembre 1979 semble marquer une fuite en avant de Moscou. Elle ouvre une nouvelle étape de la guerre froide entre les deux blocs. Le combat des Moudjahidines afghans, combattants de la foi engagés dans le djihad, va apparaître comme providentiel pour contrer les ambitions hégémoniques prêtées à l'Union soviétique, et souvent être célébré à la façon d'une épopée.
Le Nouvel Obs, 16 juin 1980.
Le combat des Afghans est celui de toutes les victimes des totalitarismes communistes et fascistes.
Le Figaro, 16 janvier 1988.
Ils chargent pour Dieu, un long cri, Allah Akbar. Et soudain, ils surgissent de la poussière et du néant, une mitrailleuse lourde en travers de la selle.
Donc, ces djihadistes qui menacent aujourd'hui les États-Unis et l'Europe étaient des héros à l'époque parce qu'ils menaçaient le bloc de l'Est. Les journalistes comprenaient pas le principe d'armée sainte, de putain de suprémacistes religieux, que ça créait des conflits religieux et donc de l'immigration. On récolte la misère qu'on a semée et certains arrivent encore à se plaindre. Bon, il y en a des causes. Alors pourquoi on parle que de ça? Que de... Est-ce que c'est bien de les accueillir ou est-ce que c'est dangereux?
Ils sont dangereux.
Et pas de pourquoi ils partent tout court. Bégodo, l'histoire de ta bêtise. Ton mot d'ordre, ton mot visant à la préservation de l'ordre est tout sauf les classes. Tout sauf cette découpe-là du réel. Tout le reste, tu peux le digérer. Les questions de genre et de race, du moins telles qu'assimilées par toi, ne menacent pas tes positions. De plus rude que moi, avancerait même que tu les assimiles pour les abolir. D'où vient ton exception, migrant? D'où vient que ton seul point de contentieux avec Macron, que Bennett, tu avais cru aussi favorable à la circulation des pauvres que des capitaux, porte sur l'accueil des migrants? Réponse de toi, réponse morale, parce que ça te choque, parce que seul un salaud que tu n'es pas resterait insensible à ces pauvres airs. Toi qui surmontes ton hostilité à la gauche militante pour participer à un collectif de soutien aux migrants, pourquoi n'aides-tu pas aussi des mal logés, des chômeurs en fin de droit, des enfants autochtones sujets à la malnutrition? Voyons. 1. La situation est tangible. Je ne dis pas spectaculaire, laissons de côté ce procès-là, mais tangible. Le migrant se voit. Il t'est paradoxalement plus proche qu'un souffrant du cru. Il est parfois en bas de chez toi. Son froid et sa faim te sont palpables et tu as du cœur. 2A. La situation est lisible. Hier soir, une de tes auteurs argumentait son soutien à des migrants parqués dans un square de son quartier. C'est simple. Des gens ont besoin de nous. On les aide. Ce billard politique à 9 bandes peut donc être ramené à des truismes moraux comme tu les aimes. Ou saisi dans des schèmes politiques comme tu aimes les mobiliser. L'exil, le mal du pays, l'arrachement à la famille, mon cœur est resté là-bas, etc. 2B. Ces migrants sont noirs et arabes. Les accueillir, c'est accueillir l'autre. Le migrant n'est pas seulement un crève-la-faim à nourrir et loger, il est l'autre. En l'espèce, tu n'agis pas au nom de la solidarité minimale que tu dois au prolétaire refoulé de sa terre par l'oppression économico-politique, mais au nom de l'ouverture à l'autre, car l'autre est une richesse, l'autre même super pauvre et riche. Le seul autre avec lequel tu peines à fraterniser est celui qui refuse l'autre. Celui-là mérite un blâme. Ainsi perçu, ainsi filtré, le migrant traîne de camp en camp un malheur pur, sans cause, tellement victime que victime de rien, victime du sort. La guerre qui l'a expatrié, tu ne cherches pas à savoir qui l'amène et dans quel but. Aussi bien, tu n'examines pas longtemps quelles forces causent les dérèglements environnementaux qui produisent le réfugié climatique. Envisagé par le petit bout de la morale, le bout auvergnat, la cause des migrants peut se tenir sans heurter l'ordre capitaliste, sans mettre au jour le fait impérialiste. Coûteuse en temps et en énergie, sois-en remerciée, elle est à peu de frais politiques. Elle a même, pour bénéfice connu, pour but, disent certains de mes amis, de substituer à un heurt dominé-dominant un dilemme accueil-fermeture qui brouille les cartes, brouille les classes, et sur lequel tu te plais à observer que les prolos sont souvent beaucoup plus réacs que toi. Aubaine, si le prolo est facho, toi, bourgeois, tu peux te dire de gauche. et triomphalement découpler la pensée de la condition sociale. Va falloir que je passe ce livre à Elsa. Et Fabien ? Interview de Bégodeau par le Livre Noir sur YouTube.
Étudions maintenant les causes du fait qu'il y a de la migration. Et une des causes, c'est bien sûr la déshérence de tout un tas de pays, dits du Sud ou autres. Et c'est ça sur quoi il faudrait quand même se pencher. Et toujours remettre davantage en question l'hégémonie occidentale sur les richesses mondiales. Bon. Et deuxièmement, de constater que bien sûr, pour une grande part, le capitalisme adore les migrants, puisqu'ils sont des prolétaires au carré particulièrement fragiles. Donc, si vous trouvez que vous voulez défendre le migrant qui est un souffrant au carré, ou vous trouvez que la migration produit un certain nombre de dommages, soyez anticapitaliste.